Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous.
Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche.
C'est mon seul espoir.
Mais je ne suis plus une Jedi.
La fête est terminée.
Allez hop, on dégage.
Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse.
Bienvenue au premier désordre, émission qui fait de Star Wars son thème universel. Aujourd'hui avec le désordre 6, vaisseau rouillé mais rutilant tout de même par nos regards, nous sommes en train de nous rapprocher de Batuu, planète pour finir pas si connue de notre galaxie, surtout en Europe. C'est parti pour le nouveau désordre des présentations. Nous avons cette semaine TK1138, Stormtrooper de l'extrême, tel un couteau suisse qui nous revient après des mois d'absence. Il a pu avoir une permission entre deux attaques jumelées des vestiges de l'Empire. Comment vas-tu ?
Bonjour. Effectivement, ça fait 6 mois que je ne suis pas venu. Ah,
c'est 6 mois plus ou moins, Michel.
Plus ou moins 6 mois, parce que ça correspond avec...
La sortie de...
Avec ma nouvelle caserne. En fait, j'intègre une nouvelle caserne, et il se trouve qu'il y a beaucoup de travaux à faire dans cette caserne, et ça me prend énormément de temps, ce qui fait que mes journées... sont optimisés pour me libérer un maximum de temps.
Pour que tu puisses repartir au plus vite à la caserne.
Et je l'intègre mi-mai. Donc,
cool.
Donc du coup, faut vraiment que je me dépêche car il y a encore énormément de choses à retaper.
Le calendrier, effectivement, avance. La Casa di Mama.
Ouais, c'est une ancienne base rebelle. Et tu sais, comme ils sont sales,
ils
entretiennent mal leurs locaux.
C'est pas Adasai qui...
Il faut que ce soit clean, tu vois, le premier ordre, c'est propre.
Donc, oui,
on fait tout.
Déjà, jusqu'à cirer le parquet, jusqu'au dernier. Ouais, puis
il faut que ça brille.
Puis le premier ordre, il arrive pas dans un truc à moitié cassé. S'ils arrivent, c'est que tout est fini.
C'est nickel.
Rubis sur l'ongle, mais je comprends. Faut simoniser, faut
désinfecter.
Puis c'est que du neuf. D'ailleurs, il y a rien de récupération.
Il y a les murs quand même.
Ils sont cachés.
C'est un ancien temple, donc.
Mais tu mets du placo,
c'est des plaques métalliques.
Ouais, voilà, mais c'est ça, du bon métal brossé.
Des plaques métalliques noires, un éclairage froid, c'est nickel.
Des LED blanches. Je comprends. En tout cas, on te souhaite bon courage pour. Merci d'avoir pu venir parce que t'étais. Le Stormtrooper de la situation, l'homme de la situation pour.
Sans toi, on aurait été perdu là.
Mais
c'est, on a besoin de toi pour
ça. Ça permet d'avoir une crédibilité que nous n'avons déjà pas beaucoup au premier désordre. Donc si on essaie de garder quand même un minimum de structure. En tout cas, on est heureux de te revoir pour cette émission. Et nous avons donc Tony Porgesit qui continue de porter l'étendard en plume des Sith avant de finir en oreiller s'il déçoit son maître Adasai. Donc voilà, il vous passe le bonjour, mais. Justement, il avait une dernière mission à faire pour Adasai, donc il s'est dit, mon Dieu, si je commence à manquer à mes devoirs... Donc voilà, qu'on espère le retrouver bientôt. Et nous avons effet de surprise à chaque fois, je croise les doigts toujours pour qu'il soit là, Angok Jedi Wookie, star de la Force, qui a remis les diplômes des 3e promotions étudiantes de son école de la Force. Nous vous le rappelons, c'est une formation accélérée. Bientôt, nous serons inondés sous les New Jedi. Toute une génération se rue sur son école depuis la sortie de ton film.
Tout à fait. C'est un diplôme non contractuel, bien entendu.
Moi,
j'essaie de donner la meilleure formation possible, mais après, ils en font ce qu'ils veulent. La galaxie sera pleine de Jedi pseudo-formés qui pourront faire le bien autour d'eux.
En tout cas, ils peuvent essayer.
Ils peuvent essayer.
Ils ont la volonté de faire. On verra ce que c'est.
Exactement.
De toute façon, ça a été la bribe du scénario qui arrive en me disant « Ah, oui, ça peut avoir... » Voilà,
au minimum, ils sauront manier le balai avec la télékinésie.
Oui, voilà. moi, je pensais que c'était...
On l'a vu dans le 8, ça peut suffire pour faire un déclenchement de...
Si tu manies le balai, t'es un Jedi.
Tu montres en tout cas que tu veux faire les poussières. C'est déjà positif. Une pensée à tous nos membres qui sont perdus dans toute la galaxie. Comme Tico Contrebandier qui tente de vivre encore de son travail, mais attaqué régulièrement par des élèves d'Angok qui veulent faire la justice pour gagner des points de force dans le classement général. Parce que maintenant, il y a un classement général pour les motiver
à...
maintenant, ils ont décidé d'essayer de montrer de leur présence. Merci à Middle de nous prêter IG-98 pour enregistrer l'émission. Et moi-même, Zarklog Guitorien, brocanteur de l'espace, je viens vous voir avec deux encoudoirs. Cela permet de poser vos coudes sur un angle de 90 degrés, même debout pour faire croire que vous êtes assis sur une holovision alors que c'est faux. Donc voilà, donc c'est juste.
Quand t'as dit des encoudoirs.
Des encoudoirs, ça existe.
Des accoudoirs.
Ah oui, mais là c'est des encoudoirs parce que.
Ah donc c'est vraiment un truc spécifique.
Ouais, voilà, c'est pour montrer que c'est bien. Si ça n'existe pas, c'est mieux. Donc voilà, donc c'est juste, c'est rétropropulsé comme ça, et donc ça te permet de faire croire que t'as les bras en angle droit.
On peut faire du sport avec ça.
Ouais, ça doit être gainant un petit peu, non?
Ah peut-être, ouais, je pense qu'on peut. De toute façon, si tu coupes et tu l'allumes à chaque fois, ça fait un petit effet giratoire.
Moi, j'ai déjà mon fauteuil autopropulsé qui me porte.
C'est vrai.
Donc, j'ai plus besoin de marcher. Donc, voilà, donc pas besoin de faire semblant, en fait.
Je t'ai vu, on t'a vu arriver avec ton fauteuil autopropulsé.
Comme dans là-haut, tu vois.
Voilà, tu ressembles pas encore au barreau Harkonnen, quand même, ça va. Donc,
oui, voilà, j'ai encore un peu de marge. J'espère ne pas
arriver là, parce que. Surtout un Wookiee, un mélange de Wookiee et de.
Ah ouais,
et tout mélangé sur un fauteuil autopropulsé. C'est bizarre. Mais bon, mais c'est peut-être ce qu'on veut en même temps. On n'a peut-être pas assez ça dans les productions Disney. Mais ouais. Bon, en tout cas, on est heureux de te voir.
Mais
aussi.
Du coup, non, je ne l'achèterai pas.
Ouais, donc, ouais, voilà, non. Tu vois, j'ai essayé de te redonner un compliment pour dire pour voir si t'allais me l'acheter. C'était 22 crédits quand même.
C'est pas cher quand même.
Tu veux pas l'offrir à TK pour son.
Ah, c'est vrai que tu continues à faire des éloges de mes formations dans le podcast. Vas-y, je te le prends.
Voilà, tu
vois ça comme une subvention.
Ouais, voilà, et puis voilà.
Sauf que c'était pas TK qui voulait l'acheter, j'ai l'impression. Donc.
Bah, non. Il était intrigué quand même, il me semblait. Mais bon, il l'aurait pas acheté. Vu qu'il y a déjà trop de choses sur le feu. Et bien entendu, hop, je vais trouver le papier que je ne trouve plus, mais on va y arriver. Est-ce que vous avez cliqué, hyper lifé des nouvelles pour Star Wars ou votre actualité autour de la guerre des étoiles cette semaine? Et toi, de tous ces longs mois,
si je devais juste faire preuve de mémoire,
ouais.
Je parlerais uniquement du trailer qui est sorti hier. Sur la très proche future série Disney Star Wars, à savoir Acolyte.
Qui sort le 5 juin, c'est ça?
Et 4, c'est pas le 4?
Oh, ah ouais, peut-être, c'est un mercredi en tout cas.
Et ce sera deux épisodes, c'est ce qu'ils font habituellement, donc les deux premiers épisodes. Après, hormis ça, j'avais surtout envie de parler du décès de Michael Culver.
Oui, je pense pas qu'on l'ait.
Derrière le capitaine Nida. qui meurt dans Star Wars et qui maintenant est malheureusement mort dans la vraie vie.
Vraiment mort, parce que c'est lui qui est étranglé alors par.
Il finit étranglé par Dark Vador.
C'est vrai, voilà. C'est lui qui a distance.
C'est lui qui remplace à un moment donné un officier qui s'est fait étrangler parce qu'il n'a pas.
Lui aussi, c'est un deuxième.
Et ensuite, il se fera étrangler plus tard aussi, il me semble.
Ah, ok, oui, je me souvenais plus qu'il y avait deux scènes. J'étais resté sur une scène d'étranglement à distance, tu vois, mais.
Non, parce que c'est au début de l'Empire Contre-Attaque, le premier officier sort de l'hyperespace trop près ou de la base rebelle, du coup ils se sont fait repérer, les rebelles ils ont le temps un petit peu de se préparer, donc c'est pas bien, il se fait étrangler, et je crois que c'est à partir de là que Nida prend le relais,
ok.
Et se fait plusieurs fois menacé, mais il finit par mourir, il me semble.
Ah ouais, ouais, donc je sais pas, toi tu l'avais vu dans d'autres films, non? Ou il a fait une
série que j'ai pas regardé. Il me semble qu'il avait joué dans un James Bond.
Ok.
Mais je t'avouerai que mon seul souvenir c'est
dans Star Wars. Ouais.
Voilà, après il y a sûrement eu des rôles dans des séries.
Oui, mais rien qui t'interpelle comme ça.
Non.
Le trailer, quand même, revenons quand même à ce trailer. Acolyte, je sens entre le commentaire que j'ai eu, même toi, TK, tu as dit ouais, c'est pas foufou et tout. Donc voilà, c'est le trailer d'Acolyte, c'était hier. On attendait, alors je sais pas, est-ce que vous l'attendiez déjà ce trailer? Parce que moi, j'avoue que.
Alors, j'ai été surpris, j'avais complètement tout mélangé. Pensais que le trailer serait révélé en juin pour une sortie courant de l'été. Okay, enfin,
ouais. Oui,
je pensais que ça sortirait plutôt fin août, comme les précédentes séries Ahsoka, il me semble que c'était fin août aussi.
Oui.
Et du coup, je pense que j'ai tout mélangé. Et effectivement, le trailer est sorti.
Et on a eu l'affiche, on a eu quand même une petite affiche, ne l'oublions pas, où il montre quand même. Il y en a eu deux, c'était quoi
deuxième, là? La deuxième, c'est la silhouette d'un personnage sur un fond de désert avec un soleil. Enfin,
ah, ok.
Truc qu'on a déjà vu sans
dire. Oui,
sauf que c'est pas Tatooine.
Parce que la première affiche, c'est ce qu'on disait avec Adasai. Ce qui est pas évident, c'est qu'elle montre pour une fois un truc qui était même très osé pour du Disney, où on voit le sabre laser,
avec une traînée de sang à la place de la lame.
Voilà, et c'est quand même. C'était quand même. Moi, c'est vrai que c'est un vrai problème de communication, parce que quand tu teases avec une affiche pareille, En plus avec une petite phrase du genre.
Ça semblait très mature en fait.
Bah ouais ouais donc je trouve que teaser cet esprit là pour dire tiens la série elle va arriver et Acolyte c'était peut-être la série la plus sombre qu'on attendait et donc ce trailer alors vous l'avez vécu comment
J'ai pas sauté au plafond en fait.
Ouais.
Étonnamment par rapport aux autres trailers qu'on a pu voir même sur des séries que finalement j'ai pas forcément trouvé bien. Je pense à Ahsoka notamment. Enfin j'étais plus emballé. Je sais pas si c'était une question de montage, de sound design ou quoi. Enfin de rythme. J'avais été plus emballé. Là franchement je suis un peu. Il y a des passages qui font un peu fanfiction de qualité, ouais. Mais pas au niveau...
Puis souvent, les Jedi, je les trouve un peu déguisés, tu sais.
J'ai vraiment l'impression. Alors, il faudra voir les lieux où ça se passe et les personnages qu'on croise, parce qu'on traverse un marché, il y a des tavernes, etc. C'est hyper coloré et tout. Enfin, j'ai l'impression, et c'est marrant avec le thème de l'émission d'aujourd'hui,
oui,
qui est le parc de Disney, c'est que justement, on a plus l'impression d'un environnement à la Disney, vraiment de traverser un parc d'attractions, que vraiment les environnements auxquels on est habitué dans Star Wars, qui sont un peu plus pouilleux, crasseux. Là, c'est très riche. Alors après, c'est censé être l'âge d'or des Jedi, etc. La galaxie va bien, ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas eu de Sith, etc.
Ouais, mais tu vois, là, il faut le montrer par... tu sais, c'est comme George Lucas l'a fait avec de l'art déco. Tu vois, comme il l'a fait avec la prélogie. Tu fais des grands bâtiments clinquants, tu fais l'expo universel, tu t'y vas à fond.
Bah là, c'est là, un peu sur la réserve. Quoi.
Ici, tu peux... Moi, je trouve que tu le vois juste parce que tu vois beaucoup de Jedi et parce qu'à un moment, tu vois que le temple Jedi existe. Que tu sens que c'est une période de paix, mais en fait, enfin, on en reparlera juste après, mais je trouve que c'est pas bien exposé le fait que c'est une période lumineuse, quoi, pour le coup, dans cette période.
On verra. Moi, j'ai envie dire, j'ai été déçu par des bons trailers et des mauvaises séries. Bah là, si à l'inverse, on a un mauvais trailer et une bonne série.
Si seulement. Ouais, toi t'attends de voir un peu plus toi Ango.
Je le regarderai quand même.
Oui. Non mais voir on t'attend la suite quoi.
Enfin, moi c'était la série qui me tentait le plus cette année comme ça. On savait pas trop exactement de quoi ça allait parler, enfin un petit peu dans les grandes lignes mais pas vraiment dans le détail. Mais je ne savais pas du tout que le trailer allait sortir là bientôt.
Ouais,
et c'est Tony qui a partagé l'affiche qui m'a dit "Oh ouais, ça a l'air pas mal."
Allez, on y va quoi.
Ça semble continuer dans la direction du mature et tout ça et j'ai vu le trailer après et
le trailer.
Ça m'a vraiment pas du tout
ça t'a fait
pas du tout emballé parce que c'est vrai qu'en plus dans tous les autres trailers ça m'emballe pas trop il y a un petit frisson, il y a quelque chose et là vraiment à aucun moment en plus l'antagoniste a l'air très...
Après, je pense qu'on n'a pas vu.
Peut-être, je me fourvoie peut-être.
Ce que je voulais dire, c'est que.
Ça m'a rien fait ressentir du tout.
Ouais. Moi, je trouve qu'il manque déjà de plans éloignés dans ce trailer.
C'est vrai que toi, tu les aimes bien.
Les vaisseaux, moi, je veux des lieux, des vaisseaux. Tu sais, ici, j'ai vu.
Un vaisseau qui s'écrase.
Ouais, mais trop en gros plans, quoi.
Il y a quelques plans extérieurs, mais c'est vrai qu'une fois de plus, on sent vraiment la série studio fait avec le volume.
Le volume, moi, je trouve qu'on sentait hyper le volume dans cette bande-annonce. Et ce qui me dérange, c'est que tu vois les trailers qu'on a eu pour les films et tout, tu vois quand je pense au trailer de l'épisode 7, de l'épisode 8, de l'épisode 9, c'est les meilleurs parce que souvent c'est des bribes de choses dont t'as pas besoin de tout expliquer et effectivement c'est souvent ce qui nous donne un peu le frisson, c'est quand on se dit putain je sais pas ce qui va se passer et après souvent t'es un peu déçu parce que tu dis ah ok bon ce truc là j'avais peut-être misé beaucoup sur et tout et je trouve qu'ici il y a pas ce côté mystérieux dans le trailer déjà. Il y a un truc, commencez pas avec des enfants qui sont en train de méditer dans le temple Jedi. Moi, je me dis, pas acolyte, tu démarres pas la série que tu voulais la plus mature.
C'est vrai que le trailer, il n'est pas le reflet du fantasme que je me suis fait par rapport au petit pitch qu'on a pu avoir avant. Avec une série sur une enquête pour comprendre... découvrir qu'il y a des sites en fait qui sont cachés, qui complotent, etc.
Puis on pensait que ça allait
être dans l'ombre, etc.
Ouais, voilà.
Mais arrivé là, je le trouve plutôt lumineux comme trailer.
Oui, à fond.
Et on sent pas une menace ou quoi. à part la toute fin avec un plan où effectivement il y a un sabre rouge
ouais, mais tu vois pas
et puis une espèce de force push puissant
beaucoup trop fort qui arrive à
beaucoup trop fort, ça peut être marrant, c'est surtout que sur le coup j'ai rien compris ce qui se passait, j'ai cru que c'était eux qui rushaient,
qui s'envolaient,
qui soulevaient le sol tellement ils fonçaient.
Ouais, c'est,
c'est après que je l'ai revu en disant ah non d'accord, bah putain j'espère que ça sera un peu plus clair quand on
c'est pareil, c'est quand j'ai revu la deuxième bande annonce en disant ah non en fait ils sont en train de tomber parce que oui il y a un moment tu comprends plus rien, tu dis qu'est-ce qui se passe,
trop serré le cadrage,
D'où le fait ce qu'on dit, hein. Moi je pense que tout est très serré, et après quand tu parlais d'antagoniste en Gok, je trouve que là il y a une sorte de méchante ninja qui en fait c'est des trucs qui me font souffler, assassin, tu sais, c'est moi c'est des trucs, je préfère voir un perso qui bouge pas et qui allume une lame rouge en disant regarde je suis dans l'ombre et puis ça va partir en vrille, que de montrer déjà des scènes d'action où tu vois que la ninja elle fait une sorte de vieux de pirouette et tout, mais tout ça ça me projette pas dans le récit, c'est juste tu dis bah oui j'ai bien compris que vous vouliez qu'il y ait de l'action, enfin en tout cas il y a les enfants qui, et tu sais tu vois un plan avec les enfants, qu'est-ce que vous voyez,
la lumière, l'équilibre, la force du feu,
et avec le truc là je fais non ne me commence pas, fais pas ça, enfin même si j'aime bien le petit
toujours aussi pertinent les imitations de Dark Club,
j'aime bien le professeur asiatique, hein, parce qu'on dirait un peu à tu sais un rogue de Harry Potter, tu sais t'as l'impression que ça va être le professeur qui mais ouais et puis tout est bref j'ai l'impression que c'est ce que je l'avais mis aussi dans mon avis et ce que t'as redit TK, c'est que pour moi j'ai l'impression que ça devient, ils perçoivent leur série, Disney perçoit ses séries comme un parc d'attractions, et plusieurs fois on s'est fait la réflexion et j'ai l'impression que de plus en plus on est en train d'aller parce que c'est tout est un peu plastique et tout est un peu faux et ça me fait un peu peur quoi, mais
est-ce que tu vas regarder ou pas?
Ah oui okay. Bah moi je suis alors pour, si vous voulez les avis des derniers dernières personnes du groupe, il y a toujours Régnator qui lui dit genre j'attends de voir, parce que pour lui c'est que un peu comme toi TK, c'est un premier trailer, donc lui même Régnator lui c'est plus je jugerai sur pièce. Moi je trouve que les trailers sont censés déjà nous donner le ton de la série, et à chaque fois je me dis est-ce qu'on a vu un trailer qui était vraiment raté en termes de Star Wars peut-être, et que je me suis dit tiens j'ai vraiment pas parié sur ce trailer, mais en fait quand j'ai revu le film il était mieux, enfin où la série était mieux que le trailer que j'ai eu, j'ai pas d'exemple sur le coup, et donc c'est pour dire qu'en tout cas moi je suis content de le voir, parce que je vais être content de râler aussi, tu vois, dire si c'est bien je serais heureux parce que je serais content de l'aimer. Et si c'est nul, bah, je serais content de râler dessus parce que je sais pourquoi ça va me... Alors, comme disait Général Majax, lui disait dans le groupe que pour lui, il trouvait que ça faisait fantasy et qu'on partait vraiment dans je pense, ce côté fantasy un peu fun.
Il y a des ingrédients qui ont l'air cool. Juste derrière, j'ai pas senti la maturité qui avait été vendue ou le côté un peu complètement nombreux, quoi.
Bah oui, ne nous le vendez pas comme ça.
Une fois de plus, les trailers souvent ils sont faits avec les images des deux premiers épisodes.
Donc
s'il y a 8 épisodes, faut laisser l'ombre s'installer.
Justement, le trailer aurait déjà dû faire du teasing pour dire il y a une ombre qui est en train de menacer la galaxie.
Espérons qu'on sera pris à revers.
En tout cas, il y avait un dernier truc, mais je revenais plus. C'est tout. D'autres news
Alors, j'ai vu. Il y a eu des rachats récemment.
Ouais.
De studios de jeux vidéo. Notamment celui qui bosse sur le remake de KOTOR.
Oui.
Et qui ont redonné encore des informations dessus, là, récemment. En fait, ils avaient été rachetés par un groupe qui vient d'être vendu. Qui s'appelle Saber Interactive, parce qu'ils bossent dessus. Et ils ont confirmé qu'ils continuaient de bosser dessus.
Et c'est eux qui ont sorti récemment Battlefront.
Non, c'est pas eux.
C'est pas eux
C'était à Apsis, tu vois, tous les jours.
Okay,
qui ont sorti Battlefront, et justement, c'était eux qui avaient en charge du remake du premier KOTOR.
Ah oui,
et ils ont retiré le projet parce que c'était vraiment très très peu qualitatif ce qu'ils avaient présenté, a priori.
Oui, non, c'est ça.
Et d'ailleurs, la sortie de Battlefront, catastrophique sur Steam, des très très mauvaises notes. Je crois que c'est 19% de bonnes notes.
Ouais, ils ont des problèmes de serveur.
Ils ont des problèmes de serveur. A priori, c'est un remake très très léger.
Puis je sais pas, moi j'avais...
Pour le prix que c'est, les joueurs ils sont pas contents.
Ouais, moi j'avais entendu aussi qu'ils avaient que de prime abord leur a vérifié quoi, qu'ils avaient pris des choses faites par des modeurs et qu'ils les avaient quand même intégrées dans leur version
sans rien créditer ou quoi que ce
donc
soit.
Donc c'est sûr, si c'est ça, c'est un peu crayos.
Oui, il y a une très mauvaise image autour du jeu en ce moment. Donc, bon. Mm.
Kotor, fille du bon coteau.
Bah, en tout cas, il est encore en vie. Quoi. Il n'est pas totalement
voilà, en parlant de encore en vie, il y a aussi le film Rogue Squadron.
Ah oui! Oui, j'ai entendu aussi, oui. Ça aussi, je l'avais noté aussi pour pas l'oublier. Et ça m'a fait. Ça c'est la news qui m'a fait super plaisir en disant.
Ils ont ressuscité le projet.
Mais oui. Que c'est
improbable.
Qu'ils avaient l'air de dire que oui, que c'était encore. Et que ouais, la réalisatrice, c'est encore elle qui est.
Ouais, alors, on bosse dessus actuellement.
Non, moi je dis oui.
Ah oui, moi je dis oui, t'aimes les vaisseaux spatiaux.
Ah voilà. Vous mettez une pilote là qui est super badass et qui fait des.
En one shot dans un film, pourquoi pas.
Ouais, voilà,
j'espère qu'ils vont pas en faire une trilogie qui traîne trop longtemps.
En tout cas, voilà, moi je veux mes vaisseaux. Non. Donnez-moi un film fait de vaisseaux et je serai heureux.
Star Wars Armada, film.
Mais oui. Non mais voilà, donc voilà, là c'est bon, on y va quoi. Allez, lancez la production, allez-y. D'autres news ?
Non. Pas pour moi.
Ok, bah alors moi j'ai vu un truc dans les. Si vous êtes sur l'île, il y a un magasin qui s'appelle Crockbook, il y a les livres d'occasion. Si vous voulez, alors je trouve que le livre n'est pas vraiment réussi, mais je trouvais que le principe était bien. J'ai vu hier, je ne l'achèterai pas parce qu'il est même d'occasion, il n'est pas cher, mais là il est à 15 euros. C'est un livre pop-up, mais avec les cockpits des avions, enfin des trucs Star Wars, donc tu l'ouvres. Et ça reconstitue les intérieurs de
l'histoire. C'est un origami quand tu
voilà. Vois. Ouais. Enfin, ouais, c'est vraiment ça se déplie. Et c'est et en fait, je trouvais le principe super d'avoir décidé de faire les cockpits de l'intérieur des vaisseaux. Par contre, c'est pas du dessin. C'est une sorte c'est du dessin un peu à l'ordi et tout ça. Donc ça manque un peu de charme. Mmh. Et malheureusement.
Ça s'appelle Star Wars Cockpits.
Ah ouais, ben voilà, le cockpit. Donc si vous voulez pour 15 euros vous pouvez l'avoir d'occasion parce qu'à mon avis il doit faire au moins 30, souvent il le
vend à moitié prix comme ça,
ouais voilà les trucs qui se... mais je trouve que la couverture est pas parlante et malheureusement il y a quelques cockpits intérieurs qui sont moins emblématiques et mais pourtant
la couverture c'est le cockpit du Faucon Millennium en silhouette avec les lumières, enfin les étoiles qui partent.
Qui défilent, ouais. Mais je trouve que ça donne pas le côté un peu fun, tu sais, de ce genre de livre, tu vois, ça reste assez sage, on va dire. Tu sais que j'aurais bien aimé peut-être de voir plein de, je sais pas, un truc, une sorte de maelstrom de bordel. mais bon, j'en veux plus.
Le bordel, il est à l'intérieur.
Oui, c'est vrai. Donc en tout cas, si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Effectivement, on l'avait toujours pas dit, mais il y avait Ahmed Best, l'acteur qui avait réalisé, qui était Jar Jar. Qui avait teasé un truc sur Twitter en disant est-ce que je serais pas de retour dans Star Wars et tout. Donc les gens savaient pas si ça allait être le maître Jedi Kyle Randbeck là qu'on avait eu dans je sais même plus quelle série dans Obi-Wan ou si c'était il revenait en tant que Jar Jar quoi. Donc moi je préférais en tant que Jar Jar parce que tant qu'à faire un retour
en tout cas la photo qu'il a partagée, il a des petits capteurs sur le visage etc. Ouais. Enfin c'est
ouais, ça sentait le Jar Jar.
Écoute, moi j'aime bien ce personnage-là, donc.
Bah oui,
je n'avais pas entendu parler. Mais
allons-y. Bon, il y a quand même, je sais plus quoi, dans notre groupe, qui a quand même dit que c'était qu'il préférait Jar Jar à Rey quand même, donc ça, dans
oui, bah moi,
ça, je peux pas. Je
sinon,
peux pas
le livre que t'as vu d'occasion est sorti en 2020.
Ah ok, ouais.
Donc, je sais pas si on peut encore le trouver neuf, mais en tout cas.
Ça, c'est de la news comme on aime ça.
les prix que j'ai pu voir là, c'est 20,09€.
Ouais. Sur Crockbook, sur Lille, c'est vraiment pas loin de la gare.
Un livre pop-up d'occasion. C'est chaud.
Ah non, parce que c'est de la revente.
Il a été bien entretenu.
En fait, c'est de la revente de stock. Parce que je pense que justement, il est
plus. C'est du neuf déstocké.
Oui, c'est du déstockage. Donc tu peux. Donc il est. Non, ils sont à chaque fois propres et tout. Dernier truc, le roman, la deuxième phase de la Haute République est sorti en France. Je sais plus. Je pense pas que je l'avais dit. Donc c'est La Voix de la Vengeance qui est quand même donc écrit par Cavan Scott. Donc peut-être que ce sera enfin un de ces romans. Alors il faut que je rattrape le retard. J'en ai deux de retard.
Dans tous les bouquins de la Haute République qui sortent, là j'en sais plus où on est. Au tout début de la phase 3, c'est ça ?
Alors en France, on termine la phase 2.
Ah, okay,
et aux États-Unis, on est dans la phase 3. Quoi. On arrive à la fin de la phase 3 aux États-Unis où on est en cours. On est en cours, on n'a pas fini parce que je pense que sinon ils auraient dit vraiment la critique. J'essaie de faire au plus court parce qu'on a eu beaucoup de news cette semaine, mais j'ai enfin fini L'ombre des Sith, roman d'Adam Christopher qui était donc, vu que je m'étais planté, mais qui se passe avant l'épisode 7. Mais qui est lié à Oshi de Bestoon qu'on revoit dans l'épisode Le vaisseau perdu.
C'est entre le retour du Jedi et
le réveil de la Force. Et j'avais parlé du fait que je l'avais commencé, que c'était beaucoup de pages parce que c'était 700 ou 600, c'était 670 et des pages. Alors, le problème qu'on pouvait voir arriver, c'était un peu ça, c'est que j'en ai dit beaucoup de bien au début, parce qu'on voit les parents de Ray, parce qu'on en apprend beaucoup plus.
On a même
plus.
Le nom de sa mère.
Oui, qui s'appelle, je ne sais plus.
Et elle a un père aussi, et le père n'est pas Palpatine, en fait.
Non, voilà, c'est un des clones. Enfin, en fait, il s'est échappé.
C'est compliqué. C'est le clone de Palpatine.
En fait, c'est quand même lié à, en tout cas, ce principe de où il veut créer une génération. Ouais. En gros... Ça saute, c'est un peu, je pense, le principe du délire de ça saute une génération où, en fait, en gros, le père n'a pas la force. Et en gros, c'est une expérience ratée. Et il vit sur Exegol. Et en gros, bah, plus personne s'intéresse à lui parce qu'il n'a pas, il a pas la force, entre guillemets, si j'ai bien capté. Donc, l'idée étant, c'est qu'on voit très vite qu'il s'est enfui d'Exegol, qu'il est avec sa femme, qu'il a eu une fille. Et que d'un coup, bien entendu, pour X raisons, maintenant, les gens veulent récupérer la fille. Parce qu'elle a la force. Alors, je ne sais pas s'ils expliquent vraiment pourquoi, parce que vu qu'on ne sait même pas que Rey a vraiment la force à ce moment-là, donc peut-être que c'est un point un peu nébuleux. Mais en tout cas, donc, c'est cool parce que moi, je suis content d'avoir rencontré les parents de Rey, c'était top. Le vaisseau de Chine, le vieux, en gros, tu vois que c'est un chasseur de Jedi, ça lui donne de la consistance. Même le petit robot qui est avec lui, bah, tu vois qu'il le maltraite et tout ça. Donc, après, c'est juste dommage, c'est que c'est un chassé croisé, c'est que pendant tout le temps du roman, au bout d'un moment, eh ben, Luke et Lando, donc Lando cherche sa fille, et vu qu'il se dit, tiens, moi je veux quand même aider cette famille parce que je veux qu'ils n'aient pas de problème avec leur fille, parce que moi j'ai perdu ma fille, etc. Donc ils suivent toujours un peu. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'académie de Luke avec Ben Solo et tout ça. Donc tout ça, c'est quand même des trucs qui donnent envie, mais après, quand ils chassent, après, ils courent après les parents. À chaque fois, ils vont chez un gars qui s'enfuit, etc. Et donc ils n'arrivent jamais à les retrouver, ils essaient de les sauver. Et à la fin, tu vois que, bon, vous êtes prêts pour les spoilers, mais en gros, les parents, ils se rendent compte qu'ils vont toujours être poursuivis, qu'ils ne peuvent pas aider leur fille, et donc ils les mettent, ils la remettent sur Jakku, ils la remettent sur Jakku, alors qu'ils avaient quitté Jakku au début, mais ils se disent, bon, et donc ils les mettent, ils la planquent là-bas, ils s'enfuient, et là, le méchant les rattrape et les tue, etc. Et pendant ce temps-là, il y a quand même Luke et Lando qui sont sur une autre planète avec un autre personnage, et puis alors ça recouvre le roman Riposte, qui était un autre roman que j'ai pas lu, mais il y a un méchant qui est un ancien Sith qui s'appelle Panchar ou je sais pas quoi, et en gros il y a une relique Sith, c'est un masque, et en gros à travers le masque, quand quelqu'un met ce masque, le reste de l'esprit du Sith se réactive. Et en gros, dans ce roman, il y a quand même ce personnage qui revient, et il y a des sortes de momies, de persos momifiés qui viennent un peu d'Exegol et tout ça, d'Exegol et tout. Donc il y a quand même tout un truc qui est un peu relié. Et en gros, Ochi de Bestoun, il veut retourner sur Exegol parce que comme ça, on lui a promis une sorte de renaissance parce qu'il a des yeux bioniques, etc. Mais c'est pour vous dire qu'il y a aussi un méchant, il y a une femme qui est possédée, et il y a un combat de Luke contre cet esprit de l'ancien Sith qui est quand même cool, et en plus vu que tu sens que Luke il se bat contre, il y a un super combat à la fin contre les deux, et ce qui est marrant c'est que vu que le mec se combat avec des techniques d'il y a des millénaires, donc Luke il fait ouais je les vois arriver des vieilles techniques et tout, parce que vu que le mec il s'est pas mis à jour depuis des millénaires, ça permet. Mais il y a quand même des super scènes où les scènes de combat sont bien écrites et tout, donc en fait je trouve que c'est un romancier qui t'aurait envie qu'il réécrive quelque chose. C'est peut-être dommage, c'est qu'il était très coincé dans tout ce qu'il pouvait dire.
Ça le problème, c'est quand tu as une histoire qui s'intercale entre deux films ou deux trilogies en plus.
C'est toujours un peu délicat.
On t'impose tous les ingrédients, tu essaies de jouer avec, mais il faut que à la fin de l'histoire, ça soit comme au début finalement.
Voilà, après, moi, mission accomplie.
C'est un épisode filler, c'est toujours compliqué.
Voilà, mais mission accomplie, on a tellement peu de choses.
Mais il a eu des bons retours, hein, ce roman. Oui. Je l'ai même acheté, tu vois.
Ouais,
j'espère un jour le lire.
Bah, franchement, tu. N'hésite pas, parce que c'est moi je veux plus de contenu de la post-logie, et en fait mission accomplie, je lui mets 7 sur 10 parce que je lui mets, donc ce serait un 8 si vraiment vu qu'on a encore eu peu de bouquins sur cette période là, je lui mets 8, et un 7 pour son petit côté redondant. C'est dommage d'avoir autant de pages. Alors je pense que le romancier, lui, il a noté ce qu'il voulait, hein, on lui a pas obligé d'écrire autant de pages. Mais peut-être que l'histoire pouvait...
Il était payé à la page.
Ouais, voilà, peut-être. Bah, j'espère en tout cas qu'il vivra grassement. Il fait des beaux remerciements à la fin, en tout cas, pour dire qu'il était très heureux et que je pense qu'il a passé un bon moment. Mais qu'est-ce que j'étais content de retrouver Luke et Lando en mission aussi.
Et puis surtout un Luke optimiste.
Bah, c'est ça, qui est quand même, qui a quand même la volonté. Et en plus, il parle du nombre, il sous-entend qu'il y a un nombre qui est en train d'envahir la galaxie, qui sera peut-être... Mais ça marche bien. Pour le coup, il arrive à montrer qu'il y a un peu de tension, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc je vous le conseille, n'hésitez pas, L'ombre des Sith d'Adam Christopher. En attendant, comme ça après je pourrais repartir sur la Haute République, il me fallait un break. Et Dernier message court et après on file pour de bon. On en parle la semaine prochaine. La partie d'Armada, ça t'a.
Ah oui, Armada, vraiment très bien.
On en reparle la semaine prochaine.
On en reparle la semaine prochaine. Vu qu'on fait une partie. On a été arrêté en pleine attaque sur un vaisseau en perdition.
On fait une partie vendredi normalement comme ça. Alors, donc, let's go. On peut enchaîner directement avec le sujet du jour avant qu'il soit trop tard.
Ça marche. Et bien, après avoir entendu les exploits de Zarklog dans sa bande d'arcade obscure au fin fond d'un cinéma désaffecté. Il nous avait également expliqué ses remontées gastriques dans l'attraction de Star Tour.
Ah, putain,
cette anecdote ne pouvait pas mieux tomber, étant donné qu'on parlera aujourd'hui de parc d'attractions. Et pas n'importe lequel. En partie parce que celui de Paris est très oubliable, si je puis dire, d'un point de vue Star Wars en tout cas. Mais nous parlerons bien de celui ouvert le 31 mai 2019 sur 5,7 hectares. Je parle bien sûr du Star Wars Galaxy Edge. En long, en large et en travers, et surtout grâce à TK qui a pu le tester... Nous allons avoir une source d'informations fiable aujourd'hui dans le premier désordre. C'est pour ça que nous apprêtons à répondre à la question suivante. Le parc Star Wars Galaxy Edge mérite-t-il 4 étoiles dans le guide du tourisme intergalactique? Délibération et verdict maintenant.
Merci Hangok, on active l'hyper-lumière. L'hyper-vitesse, je ne sais plus.
Direction Batou.
Direction Batou, on arrive. Alors, on démarre. Quand est-ce que vous avez entendu parler de la construction du parc et quel effet ça vous a fait de savoir qu'il allait devenir réalité, qu'il allait avoir vraiment un truc exclusif Star Wars dans les parcs Disney, ça vous dit quelque chose
ou... Bah, c'était il y a longtemps.
Hein. Ouais, ça commence
déjà rien qu'avec le rachat de Star Wars par Disney. Il y a eu ce fantasme de se dire ah, ça y est, ils vont développer la licence.
Oui,
donc
oui, oui.
Les parcs ils vont sûrement grossir aussi les attractions ou les thèmes autour de Star Wars, sachant que c'est déjà une longue histoire entre Disney et Star Wars. Parce que des attractions Star Wars, il y en a eu très tôt.
Oui.
George Lucas a lui-même bossé sur, enfin ILM a bossé sur d'autres attractions, même que des attractions Star Wars pour Disney. Enfin, il y avait vraiment une entente.
Ah oui, oui.
Bah, il y avait une attraction sur Michael Jackson, c'était fait.
ILM.
C'était fait avec ILM.
Ouais.
C'était Captain EO, je crois le nom. Et puis Star Tour, c'est probablement l'attraction historique Star Wars Disney. Qui ensuite a été upgradé, il y a eu Star Tour 2 qui est arrivé tardivement en France, mais maintenant il me semble qu'on l'a. Hein.
On l'a, je peux confirmer.
et puis c'est une attraction qui continue d'être mise à jour avec des nouveaux extraits en fonction de l'actualité des séries, etc. de Star Wars. Et donc, la partie de parc dédiée à Star Wars qui est arrivée aux États-Unis. D'un côté en Floride et puis également sur la côte ouest à Los Angeles. Je crois qu'on en a entendu parler il y a déjà bien 5 ou 6 ans minimum, avant la Covid, les confinements, tout ça.
Ah ouais, c'était...
Parce que ça a foutu justement le bazar sur la construction et retardé l'ouverture. Enfin, c'était tout un cirque.
Ouais, en tout cas, vous aviez suivi un petit peu les photos, les choses quand c'était en construction.
Ah ouais, carrément.
Ouais, toi, t'étais.
Il y avait des photos de drones pour venir espionner à quoi ça pourrait ressembler, etc. Ensuite, il y a eu quand même la communication officielle où ils avaient montré des artworks de différentes zones et
puis surtout
expliqué ce qu'était l'avant-poste qui sert de décor, la planète Batuu, etc. Enfin. Et puis une maquette, ils avaient fait une maquette gigantesque.
Oui, voilà, ça j'ai
posté. Je pense que c'était pas tant pour la com, je pense que c'était même plus pour l'interne et pour les actionnaires ou quoi, pour montrer l'envergure du projet. Je sais pas s'ils font ça à chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle zone, mais c'était une maquette de dingue.
Bah, pour Star Wars, je pense que c'était peut-être plus facile, parce qu'entre le fait qu'ils font des... Enfin, ça collait bien, vu qu'il y a plein de maquettes dans Star Wars, je trouvais ça cool. Mais c'est vrai qu'elle avait l'air... Elle a l'air immense, elle a l'air de prendre toute cette pièce ici en longueur.
C'est une maquette qui faisait au moins 5 mètres de long, tel qu'on a l'impression, puis hyper détaillée. Et surtout hyper fidèle. C'est l'inverse, c'est que la construction est hyper fidèle à la maquette, mais en tout cas, c'était.
Oui, c'est bien.
La projection était facile. Quoi.
Ouais, bah, disons que j'imagine que ça doit aider quand même d'avoir vraiment une maquette qui représente vraiment ce que ça va donner comme point de référence pour la construction.
Et en tout cas, dès que j'ai appris ça et que j'ai vu les premiers visuels et tout, je me suis dit, c'est pas possible, faut
que t'y ailles.
Faut que j'y aille, parce que c'est pas prêt d'arriver en France, quoi.
Oui, c'est sûr. En tout cas, ce sera pas de cette taille-là.
Bah justement, j'avais été dans le parc, le nouveau parc de Star Wars de Disneyland Paris, la partie studio, où ils sont actuellement en train de finaliser les travaux pour faire la partie Reine des Neiges.
Ouais.
Et la prochaine zone sur laquelle ils travaillent, ce sera celle de Star Wars. Et d'ailleurs, quand tu rentres dans le parc, il y a toute une zone où c'est écrit, il y a des travaux, et il y a une grande image une grande image comment ils voient le parc. Et justement, au fond, on voit un petit peu ce que ça donnera. Et ça ressemblera un petit peu à ce qu'il y a donc un peu avant-poste sur Batuu, quelque chose un peu dans le désert comme ça. Alors, il n'y a pas de Faucon Millennium sur l'image qu'ils ont partagée.
Ouais,
mais en tout cas, d'ici 2026-2027, après, c'est sorti
donc,
en 2019.
Ça ressemble, mais c'est moins grand ou moins...
Ce sera peut-être moins grand, je pense, oui.
Parce que moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que justement, il y aurait des attractions communes et des attractions en moins, mais des attractions inédites aussi.
Ouais. Bah, moi, je trouverais ça bien qu'ils assument complètement qu'ils ne pourraient pas faire le truc des États-Unis et qu'ils se disent, bah, tant qu'à faire, on fait un autre avant-poste, quoi.
Surtout que le but, autant aux États-Unis, c'est exactement le même parc, en fait, que ce soit.
Orlando, ça je peux comprendre.
Ou Los Angeles. Et là, en France, peut-être qu'ils ont voulu décliner et que ce ne soit pas exactement la même chose parce qu'ils ont aussi des touristes américains ou d'autres.
Oui, si quelqu'un vient en France, que d'un coup il se dit, tiens, c'est un petit bout de. Dans le même esprit, mais que je n'ai pas vu aux États-Unis, qui est un bâtiment qui n'est pas exactement le même, ce serait top. Hein.
Bah oui.
Alors moi je n'y suis pas allé personnellement, sur les plans ça n'avait pas l'air si grand que ça. Quand tu nous en avais parlé, je voyais un énorme truc et il y a deux attractions, deux trois attractions.
Après
il y a
sur peut-être le plan, sur le
trois,
plan ça a l'air
trois,
grand
restaurants.
Quand même.
Alors en fait c'est vrai que quand tu vois le plan ça paraît pas aussi grand que quand tu y es vraiment parce que la circulation elle est faite de telle façon que c'est pas une ligne droite.
Ok.
Et du coup tu te balades dedans, tu vois. C'est un peu comme à Ikea. C'est concentré, et au final, tu fais jamais deux fois le même rayon, et à la fin, tu as l'impression d'avoir beaucoup marché. Quoi.
Ouais,
c'est exactement pareil. Quoi. Tu circules dedans, et tu vas même parfois reprendre la même artère, mais dans l'autre sens, parce que tu as fait un tour, machin, et tu redécouvres le décor sous un autre sens.
Oui.
J'y ai passé énormément de temps.
Ok.
Ouais. Ça a l'air dense en termes de décor. Par exemple, je trouvais que. À chaque fois, je voyais des plans sur. Il y avait des vaisseaux rebelles, puis il y avait quand même un vaisseau de Kylo Ren là.
Ils ont réussi à faire coexister, en gros, le Premier Ordre, un coin de cet espace Star Wars, la Résistance à l'opposé, et au milieu, c'est la vie
commune, quoi.
Commune, et le marché. Et même les boutiques ont été découpées un peu comme ça, chaque boutique a un peu son thème.
Ça, j'ai bien aimé, en me renseignant sur le truc, j'ai bien aimé qu'ils faisaient une boutique spéciale Premier Ordre, une boutique rebelle et tout ça.
Il y a six boutiques.
Il y a six boutiques.
Six boutiques sur cet espace-là, c'est énorme. Je suis pas sûr que dans les autres...
Il y ait autant,
Enfin, après, je dis ça, je me trompe peut-être, mais en tout cas, chaque boutique, il y a un thème. Donc, en gros, il y a la boutique de la Résistance. Donc, tous les articles qui sont vendus, ça va être des costumes, des accessoires ou des jouets, enfin, en lien vraiment avec la Résistance. C'est là où tu vas pouvoir t'acheter un t-shirt
avec le logo.
Ou un casque de pilote, etc.
Ça, c'était bien avec plus des objets usuels, entre guillemets.
Voilà, ça, tu le trouves à la sortie de l'attraction qui s'appelle Rise of the First Order, je sais plus.
Qui est l'une des deux grosses attractions
de la zone. Une des deux énormes attractions de cette zone. Ensuite,
c'est un roller coaster, celui-là.
C'est alors je connais pas les termes précis pour les différentes catégories.
Enfin, c'est une montagne russe ou c'est
il y a pas du tout,
c'est un véhicule qui roule sur le sol, hein, c'est ça.
Ouais, alors ça dépend. En fait, c'est une partie. Ce truc là est assez dingue et il y a plusieurs étapes. Mais on en parlera plus en détail.
On finit avec
les boutiques. Donc à l'opposé de la boutique de la Résistance, il y a la boutique du Premier Ordre. Où là, le design, etc., tu sens vraiment que t'es dans une caserne, je sais pas comment.
J'ai vu une photo, ça a l'air bien.
Les costumes, les armures, les armes, les trucs, enfin c'est vraiment...
Rangé et tout ça, ouais, ça c'est top. L'ordre.
Ensuite, toutes les autres boutiques sont pas thématisées par rapport à un camp ou à l'autre, c'est vraiment les différentes boutiques de Batuu. Donc il y en a certaines qu'on retrouve même dans le marché, il y a une sorte de marché couvert, etc., un peu oriental, moyen-oriental.
C'est là où mon
pote
Thorien.
Donc il y en a une, c'est plutôt les créatures. Eh ben oui et non, tu verras.
Oh merde.
Il y a trois boutiques dans ce marché-là. Il y a celle des créatures où ça va être des peluches ou des marionnettes, des trucs. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans une boutique, la boutique du Mugwai dans Gremlins, tu vois, où il y a plein de petites cages, des machins.
Ah ouais, du bordel.
Ensuite, il y a une petite boutique des jouets, donc c'est plus les jouets où tu vas retrouver des vrais jouets que t'as dans Star Wars, genre le petit Stormtrooper bois, ou alors, enfin, tu vois,
c'est marrant.
Des jouets diégétiques, des jouets Star Wars, par contre, pour les enfants de notre monde réel. Et puis, une autre boutique pour les vêtements, des vêtements. Où tu sens que c'est un peu les codes, les couleurs, etc. de Batou, en fait.
Ouais.
T'es un peu comme sont habillés, en fait, les salariés costumés du parc.
C'est bien parce que ça avait l'air assez sobre, en tout cas. J'ai l'impression qu'effectivement, ça a essayé d'être un peu un minimum dans l'esprit.
Ouais. Et la dernière boutique, qui pour moi était vraiment la meilleure, c'était un spectacle, ouais. C'est presque une attraction à elle-même, c'est la boutique de Doc Ondar, où c'est un antiquaire.
Donc, voilà.
Je pense qu'il est de ta famille parce que.
On se parle plus.
C'est un Itorien dans une boutique où c'est plein d'objets incroyables autour de Sith Jedi, ce qui est vraiment le plus
emblématique.
Ils sont vendus ou c'est du décor?
Alors les deux. Okay. En fait, t'as plein d'objets, t'as des têtes d'animaux coupées sur les murs et tout comme des trophées, etc. Le décor est dingue, la boutique est immense et. Et d'un côté, tu vas avoir les artefacts Sith avec des holocrons, etc. Et puis, tu as un grand stand vitré, c'est là où il y a les vrais vendeurs, parce que Doc Ondar, on le voit un peu en hauteur, c'est un personnage animé.
Ouais, animatronique, c'est
super bien fait d'ailleurs. Mais par contre, les vrais vendeurs humains, eux, ils sont derrière un pupitre en verre où tu vois toutes les poignées de sabres laser, et tu en as une douzaine, si ce n'est pas plus. Avec les sabres emblématiques, etc., ceux qu'on connaît, et d'autres qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît beaucoup moins. Ouais. Et si tu y vas régulièrement dans le parc,
ça change,
et surtout, tu n'auras plus la possibilité de les avoir. C'est des sorties à durée limitée, donc à nombre limité.
Ça, c'est des ceux comme tu avais un peu acheté, des très beaux en métal.
Voilà, j'ai acheté une poignée de sabres, celle de Luc, et tu en avais des différents films, en fait.
Voilà, mais c'est pas des tueurs.
Également de la série Clone Wars, par exemple. Enfin, tu avais un sabre de Dark Maul, qui n'est pas celui qu'on voit dans l'épisode 1, mais qu'on voit dans la série. Tu avais le sabre de la princesse Leia, qu'on voit dans l'épisode 9, quand c'est un flashback, etc. Enfin, c'est des pièces... En fait, je les ai même découvertes là, parce que dans les films, tu ne les vois pas bien, ou alors ils sont prises en main.
Doublement, je trouve, les sabres laser, où souvent, tu n'as pas le temps de regarder les poignées, et quand tu les vois en vrai, tu as une vraie...
C'est une bijouterie.
Voilà, c'est ça, comme une bijouterie de luxe.
Surtout qu'ils sont tout neufs, ils sont clinquants, ils brillent et tout. Bon, sauf le sabre de Rey, qui était... avec des bandes, etc. Fabriquées.
Il était
chouette, hein. Mais c'est juste que lui, il ressortait par rapport
aux autres. Mais, en tout cas, c'est bien, c'est que tu as l'air de dire que c'est la boutique la plus. Celle qui se font le plus dans le décor et qui a l'air d'être le
plus. Elle est au centre du parc. C'est bien. Elle est très grande. Et puis, même quand tu rentres, ça, je suis resté longtemps devant, tu as la sculpture qui, normalement, est dans le bureau de Palpatine dans la prélogie.
Ouh là là!
Il parle avec Anakin, il commence à lui parler des Sith, etc. Derrière eux, ils ont une espèce de fresque sculptée où tu vois des Jedi et des Sith qui s'affrontent, et des espèces de créatures mythologiques. Dans le film, elle m'avait déjà marqué. J'avais vraiment envie de la voir en détail et on la trouvait pas dans les artbooks et tout.
J'ai pu la voir en vrai,
découpée en trois panneaux, donc ça doit faire 3 mètres de large sur 1 mètre de haut. Et ils ont tout sculpté ou moulé, je sais pas.
En tout cas, c'était propre.
Quoi. Et t'arrives, t'es...
Oui, c'est chouette de voir, c'est de ce que tu dis là aussi. Moi, j'aime bien l'idée qu'un parc, c'est ce qui m'a le plus marqué quand je suis retourné. Ça fait bien longtemps que j'étais pas retourné à Disney. Et c'est vrai que tu te rends compte que quand le décor est bien fait, que même faire la file, t'es déjà dans l'atmosphère, c'est déjà une attraction en soi. Donc, comme tu dis, rien qu'à aller voir.
Toutes les boutiques ressemblent à des boutiques Disney qui vendent du Star Wars. Celle-là, c'est une boutique Star Wars qui vend du Star Wars et qui donne l'impression d'être dans une boutique.
Ça doit faire du bien de se retrouver dans l'esprit par rapport au shop où des fois, où c'était sympa, mais que ce qu'ils vendaient, c'était les objets vendus dedans. Ça fait un peu cheap alors que là.
Et du coup, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis et ça permettra de quasiment conclure sur les attractions qu'il y a. Mais justement, quand j'ai vu le plan du parc, j'ai eu le même sentiment quand j'avais été faire le nouveau parc Disney sur la nouvelle zone Marvel qu'ils ont faite, qui était vraiment super chouette. Ils ont passé beaucoup de temps. Mais dedans, il n'y a que deux attractions. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de décors. Mais si tu veux juste faire des attractions, tu n'as pas beaucoup
à
faire. Quoi. C'est un peu plus de la flânerie, c'est plus un, c'est plus un parc décoration qu'un parc à faire des vraies activités d'attraction.
C'est vrai, mais alors quel plaisir ça a été.
Mais moi, je trouve qu'on tourne vite en rond. Alors là tu dis qu'il est grand, celui de Marvel en 15 minutes, tu as fait le tour et j'étais un peu resté sur ma faim.
Mais Marvel, est-ce que tu as ressenti, est-ce que c'est pas plus dur de créer la dimension Marvel possible, en part, par rapport à un Star Wars.
En plus, ils ont généralement ce qu'ils font bien Disney, c'est qu'ils mettent des personnes costumées qui incarnent des personnages. Ouais. Donc là, je vois bien des choses faciles.
Tu te fais arrêter par des.
Dans la zone Marvel, c'est plus compliqué. Les Gardiens de la Galaxie qui viennent un petit peu, mais sinon la zone est assez calme.
J'ai l'impression que c'est peut-être moins facile de faire du roleplay dans du Marvel et tout. Je sais pas si tu veux nous expliquer les deux attractions, parce que le temps passe vite et tout. Est-ce que tu l'as fait, ça avec le Faucon Millennium?
J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire, sauf les attractions payantes. Parce que ça, tu vois, c'est encore pire que ce que tu disais, c'est que non seulement il y a peu d'attractions, mais en plus, sur les quatre qu'il y a, il y en a deux qui sont payantes en supplément,
en plus de ce que
parce que tu repars avec quelque chose. Donc eux, je vais en parler vite fait. En gros, tu as un atelier de robots. Tu viens,
c'était
combien de dollars, et tu vas pouvoir customiser ton robot Astromech. Donc ça ressemble à R2-D2, sauf que tu vas choisir les pieds, les roulettes, le couvercle sur sa tête, etc. Avec des couleurs et puis des options, j'imagine, qui sont différentes. Et à la fin, tu repars avec ton petit robot. Et par contre, l'atelier est marrant, enfin, t'en as partout, c'est suspendu, on dirait ton bureau.
T'es quand même dans l'atmosphère d'un atelier. Ouais.
Et l'autre attraction du même genre, c'est où tu vas construire ton sabre laser. Alors là, déjà l'autre, c'était le cas, mais c'est en place limitée, tu dois faire la queue. Et puis, c'est comme si tu étais un padawan, tu vas vraiment venir. Tu as des petits casiers avec toutes les différentes parties de sabre que tu peux utiliser et on va t'expliquer comment c'est, machin.
Mais ils étaient beaux là, parce que j'avais l'impression que c'était plus plastique. C'est ça qui me...
Alors déjà, ils sont plus gros que des vrais sabres, tu vois. Et puis tu sens que c'est pas que c'est grossier, mais c'est du jouet, quoi.
Ça casse un peu le...
Tu choisis ta gemme et selon la gemme, et il y en a plein, tu la mets dans le sabre et ça va avoir une... ça va changer la couleur de la lame, etc. Mais en plus, t'as des voix préenregistrées. Enfin, il y a tout un truc avec.
Il y a pas des cristaux Kyber qu'on peut acheter là-bas, ça marche. Ça marche bien, ça.
Justement, dans la boutique, ça c'est bien. De Doc Andar, tu peux acheter des cristaux Kyber. Et il y en a plein différents. Et tu sais pas toujours ce que tu vas avoir. En fait, tu choisis surtout la couleur. Mais après, l'âme du Jedi et les leçons de Jedi qui sont dedans, tu sais pas lequel ça va être. Parce que quand tu les mets dans le sabre laser, notamment les sabres. Les beaux sabres là. Tu as des enregistrements vocaux que tu peux entendre.
C'est marrant.
Et, alors moi j'en ai pas acheté parce que j'avais pas compris le principe en fait. J'ai juste le sabre.
C'est déjà bien.
Et ben ça va changer la couleur de la lame que tu viens visser sur le manche. Vas avoir des. Par exemple, si tu as eu la gemme de Yoda, tu vas avoir différentes citations de Yoda.
Okay.
Si tu as eu celle d'un Sith ou autre, ça va changer la couleur de la lame.
Oh, c'est bien.
Citations. Enfin, ils sont vraiment. C'est vraiment pour les collectionneurs ça.
Le principe est bien.
Et alors, les attractions qui, elles, ne sont pas payantes en supplément payant, il y a effectivement celle du premier ordre où tu te fais emprisonner, en fait. C'est vraiment une mise en condition qui est super bien travaillée.
Ouais, t'avais dit c'était ça qui t'avait quand même le plus...
T'es chopé par des soldats, machin, ils t'emmènent dans une navette, ou alors c'est une mission à la base. Oh putain, j'ai déjà oublié. Je crois que c'est une mission, tu t'en vas dans l'espace dans un petit vaisseau de la Résistance, et en fait, tu te fais choper par un destroyer du premier désordre. Et là, ensuite, tu arrives dans un hangar gigantesque avec des dizaines de troopers devant toi. Bon, ils sont tous animés, ils ne bougent pas trop, tu vois.
Et
il y a deux ou trois officiers qui arrivent, qui t'engueulent, qui te bousculent, qui te poussent. Il faut suivre les quelques troopers qui, eux, sont armés et t'escortent et tout. Ils t'emmènent dans des couloirs, genre Étoile de la Mort. Enfin, tu vois, c'est délire.
Ça, les couloirs, ça doit être...
Chacun doit être sur son petit rond au sol. T'es à pied. Mmh. Alors, au début, la navette qui s'envole et tout, c'est des écrans à travers les hublots. Tu vis le truc, ça bouge. Et en fait, à ce moment-là, ils sont déjà en train de te déplacer parce qu'entre la navette que tu prends, qui est vraiment une navette posée dans le décor, puis ensuite, c'est comme une boîte dans une boîte. Tu t'en rends pas compte, mais en fait, ils sont en train de t'emmener
dans
un ascenseur, tu vois. Ils t'emmènent, tu sais pas où. Et t'es emmené plus loin dans l'attraction, en fait. Donc, t'es emmené jusque dans une cellule. Là, t'as carrément Kylo Ren qui vient te menacer avec son sabre et tout. Enfin, c'est toute une mise en scène, que ce soit le son, les éclairages et tout. Bon, je ne vais pas spoiler toute l'histoire, mais en gros, tu vas réussir à t'évader grâce à des agents infiltrés. Tu vas t'enfuir. C'est là où t'es dans un ride, une espèce de wagonnet
qui
peut aller dans un sens, dans l'autre. Enfin, c'est pas des rails, justement.
C'est vraiment,
tu passes de pièce en pièce. Ouais, une sorte d'auto. Et t'as des tirs de blaster dans tous les sens, t'as des trucs qui s'effondrent.
C'est là où on voit les AT-AT aussi, à un moment.
Et tu traverses un hangar où il y a deux grands quadripodes. Et pareil, ça bouge, enfin, ils sont articulés, etc. Mais tu passes assez vite, tu vois. Et tu finis, effectivement, par t'enfuir. Et là, t'es reparti dans une navette, je ne sais même plus si c'est celle que tu avais pris, et tu vas t'écraser sur Batuu. et la boucle est bouclée. Et les décors sont vraiment incroyables, quoi.
C'est vrai que j'ai revu des photos, et je me souviens que ce que tu nous avais dit, ouais, ça a l'air vraiment pour le coup.
Et c'est pas si court que ça. Hein.
Ouais,
18 elle est minutes, assez longue. Je pense. Alors je sais pas,
j'ai cru voir 18 minutes.
Contrairement à l'autre attraction,
ouais,
qui est celle du Faucon Millenium, où là, celle-là, la queue est extrêmement longue. Heureusement, elle est super décorée avec des droïdes, un hangar, des modules de course.
Tu rentres etc. dedans aussi.
C'est vraiment chouette, mais j'ai dû passer une heure et demie dedans avec une espèce de boucle de peut-être 15 minutes. Donc tu vois 6-7 fois la boucle.
Ouais.
Mais bon,
c'était quand même...
ça valait le coup.
Ouais.
Tu rentres vraiment dans le Faucon Millenium. Avec le décor du film, quoi. Avec,
ça, c'est génial.
Et ensuite, j'aurais même voulu rester plus longtemps, mais le truc, c'est qu'il faut te pousse un peu. Une fois que tu es dedans,
il faut aller au cockpit.
Il n'y a qu'un Faucon Millenium, mais en fait, ils ont fait une espèce de... Il y a 4 cockpits. Sauf qu'à chaque fois que tu vas dans le cockpit, c'est une porte qui s'ouvre, tu vas dans le cockpit, mais en fait, tu es dans un des 4 cockpits.
Ah, ok, d'accord.
Mais tu as l'impression d'être dans le seul cockpit qu'il y a. Enfin,
c'est bien.
Du coup, comme tu peux être jusqu'à 4 dans le cockpit, mais nous, on était en couple, donc on était que 2. Donc, ils nous font rentrer qu'à 2, tu vois. Et du coup, on était tous les deux pilotes.
Ah, c'est cool.
Et là, c'est parti pour un ride en 3D temps réel, en fait.
Okay.
Où tu interviens quand même sur le chemin que tu prends, puisque tu as un score, tu as la résistance de ton blindage, etc. Enfin, c'est comme un jeu vidéo.
Ouais, tu peux quand même déplacer.
T'es semi-guidé, parce que tu as quand même une trajectoire. Mais tu peux, dans le cadre de cette trajectoire, aller un peu plus en haut, en bas, etc. Parce qu'il y a des moments, dans les décors, tu vas devoir éviter quelque chose qui arrive dessus, en dessous, un vaisseau qui tire dessus, tu dois te pencher, machin. Enfin, et le cockpit est vraiment chouette, avec les petites lumières, les trucs. Et puis on te dit vite, appuie sur tel bouton, machin, fais ci, fais ça. Alors, tu le fais, je sais pas si ça marchait en vrai ou quoi.
Mais en tout cas, tu sens mais pas le fait de déjà d'appuyer
dedans,
dessus.
À fond dedans, et qu'est-ce que c'était court, c'était frustrant.
Ouais.
J'ai pas minuté, j'ai eu l'impression d'avoir piloté pendant 2 minutes grand
maximum. Oui,
en même temps, s'ils ont que 4 cockpits, ça doit prendre...
Et puis surtout, c'est des écrans hémisphériques. Là, t'as vraiment un vrai cockpit, et derrière, t'as des écrans. Ce qui fait que t'es vraiment immergé dedans, t'as cette notion de profondeur...
On arrive déjà malheureusement à la conclusion, donc toi t'étais à fond, en tout cas tu regrettes pas, tu dis faut continuer.
J'y ai passé des heures, on a quand même fait le reste du parc sur les choses qui nous intéressaient, on est revenu en soirée parce que l'ambiance en plus...
Ah ouais, ça va être cool aussi.
Le matin on est arrivé direct, j'ai rushé sur cette zone là, et le soir je suis revenu avec les lumières, enfin il y a un travail dans ce parc, que ce soit l'ambiance sonore, l'éclairage, le décor, tous les petits trucs planqués dans les décors qui sont animés ou
tu
quoi.
Vois pas tout de suite.
T'as des tuyaux à un moment donné, tu passes devant, tu fais pas gaffe. Puis en fait, tu vas entendre des bruits de bulles, tu regardes, puis tu vois qu'en fait, les tuyaux, tu peux voir à travers une petite vitre. Puis à ce coup, tu vois une Dianoga, en fait, qui passe son air, qui disparaît, puis en fait, elle réapparaît ailleurs.
Ouais, c'est bien, c'est bien.
Et ça, c'est de temps en temps. Si tu as de la chance, tu passes au bon moment, tu peux louper des trucs.
Ça, c'est bien. Ça fait du bien que ce ne soit pas automatisé toutes les 2 secondes et qu'il laisse un peu de temps entre les choses.
Et puis de voir le Faucon Millenium grandeur nature, depuis l'extérieur, tu vois. Tu passes
C'est
fabuleux.
C'est vrai qu'on sent que tu as passé un bon moment. On le voit dans tes yeux, dans ta passion, dans ce que tu nous dis et tout. Toi, Angok, tu voudrais aller le voir.
Ah oui. Mais j'ai du mal à me faire mon avis. J'irai pas aux États-Unis juste pour le faire. Et j'ai du mal à me faire un avis. Il y a des plus, il y a des moins, ça, je serais curieux de me balader.
Tu nous diras quand tu iras la version Paris qui aurait été retravaillée et tout. Moi, j'avoue que quand j'ai eu le plaisir de voir tous ces décors, je sais que oui, aller voir, d'être dans cet esprit-là, ça doit être. Ça manque de parc, je trouve, où tu peux retrouver les décors des films que tu as. Tu vois, avoir un décor. Moi, j'aime juste le fait que je suis dans le décor d'un film que j'ai aimé.
J'ai voyagé dans Star Wars.
Voilà, c'est pour moi, ça, c'est mission accomplie.
C'est bien ça. Oui.
Donc, je lui donne au moins 4 à 5 étoiles. Dommage que, effectivement, l'hôtel coûtait trop cher qu'il a fermé parce que ça a coûté.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais oui.
Voilà, mais en tout cas, pour vous dire que je suis content que John Williams a quand même composé un morceau pour.
Il est bien en
plus. Il est bien, ouais, tu vois, j'ai écouté. Je me suis dit, j'ai cru qu'il en avait fait d'autres, mais non, il en a fait qu'un pour l'intro et tout. Et les affiches sont top, on avait comme montré sur le groupe les affiches qu'ils ont réalisées qui ressemblent très fort au film, je trouve qu'ils sont super.
Ah, et l'affiche de l'attraction.
Il y a eu des romans, il y a eu des produits dérivés autour de Batuu pour essayer d'intégrer Batuu en Gok. À très vite.
En Gok
doit partir, malheureusement, il ne pourra pas participer au Star Quiz. En tout cas, je trouve ça intéressant d'essayer d'associer le parc à un principe de roman, de l'intégrer dans l'univers Star Wars.
Il y a eu des comics aussi.
Voilà. Des comics aussi. Je trouve que c'est dommage que c'est un peu timide, qu'il y a pas eu ils n'ont pas eu droit à une œuvre, parce que je sais que les romans.
Ça serait marrant qu'il y ait une série à un moment donné où ils font un détour sur Batuu.
Voilà.
Franchement, le décor, tu peux le filmer pour une série.
J'espère vraiment que Batuu aura droit à sa place pour un truc fort, parce que les romans. j'ai compris que les critiques étaient très du genre l'histoire est pas terrible et ils l'ont fait parce qu'il fallait un roman sur Batuu. Alors
on dirait qu'ils ont surtout voulu vendre l'hôtel à travers, à travers les comics notamment parce que ça se passe dans le vaisseau.
Dans l'hôtel, enfin dans tout.
Dans le vaisseau hôtel.
Donc voilà, après c'est vrai que je pense que plus ou moins tout le reste a été dit. Et l'hôtel, c'était en fait l'hôtel, il fallait payer 4 500 € la prime abord.
Ça dépendait de la chambre. Ouais. Par contre, c'était une attraction en soi, parce que c'était comme un jeu de rôle.
Ouais.
C'est pas juste, tu y vas pour manger et dormir. Il y avait vraiment des événements qui s'y passaient.
C'est juste dommage que malheureusement, ils l'ont arrêté de but en blanc plutôt qu'en faire encore quelque chose.
Je pense que c'était une super bonne idée, mais que c'était beaucoup trop cher. Même pour les Américains.
J'avais bien aimé aussi, sur la Star Wars Célébration 2019, les gens pouvaient donner leurs souvenirs sur Star Wars et Primark, ça a été intégré dans un hologramme dans Galaxy Edge. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je trouvais ça intéressant que les gens puissent effectivement participer. Alors, pour une question, c'est dommage, mais je comprends, pour une question de sécurité, en dessous de 14 ans, tu n'as pas le droit de te déguiser, mais tu peux quand même te déguiser si tu viens visiter le parc, mais avec des choses qui sont plus des t-shirts ou des trucs ou des costumes, mais tu n'as pas le droit de venir avec ton cosplay de Star Wars, parce que pour une question, mais je pense c'est la sécurité.
Ils en vendent pourtant.
J'ai bien aimé dans le restaurant, tu avais été voir, il y avait le DJ, je voyais qu'il passait de la musique et
tout
ça.
C'est un des restaurants, j'ai pas le souvenir qu'il fait de la musique.
Il fait de la musique, en tout cas il passe de la musique.
On en voit qu'ils font à manger.
C'est un petit robot, il y a un petit robot qui... Et je regrette même qu'ils ont peut-être pas poussé le truc à faire une cantina, à faire un groupe de musiciens extraterrestres quand même. Parce que ça
aurait été rigolo, mais les ambiances des restos sont dingues aussi. Hein. Et les repas, les plats, t'as vraiment l'impression de manger un plat
de
la galaxie Star Wars. Bon, hyper coloré, cool. Avec des ingrédients que tu reconnais pas forcément, enfin...
Et bien sûr, ce final, le Star Quizzer final, attention, nous avons notre champion jamais vaincu depuis des millénaires, TK1138, face à de redoutables adversaires qui sont venus pour en découdre, mais qui ont fui quand même. Gok est parti.
Ouais, c'est pas drôle.
Question à un point de fête forêt. Les parcs Disney américains intègrent dans leur questionnaire de satisfaction des questions concernant Star Wars. Êtes-vous familier de l'univers Star Wars? Seriez-vous intéressé par visiter une section? Donc Disney tâte le terrain, c'est bon aussi, mais en quelle année? Ils demandent aux spectateurs...
Ça, je suis sûr que c'est vieux. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Ça dépend. Est-ce qu'ils l'ont fait au moment du rachat
C'était, je sais plus, c'était quand le rachat? C'était quelle année?
Je sais plus, 2010, 2014.
Ouais, en tout cas, c'était, à mon avis, c'était après le rachat parce que, oui, non, il l'avait dit que c'était après le rachat parce que justement, ils ont commencé
on va dire 2014, justement.
T'étais pas loin, c'était début année 2013, donc tu vois.
An avant.
Question à deux manèges. À l'arrière de l'attraction du Faucon Millennium, quels sont les rôles des participants?
Ah, peut-être que.
Mais en même temps, comme
ils ont des pupitres avec des boutons pour activer les boucliers ou des choses comme ça.
Oui, voilà, c'est en ils regardent le bon fonctionnement du faucon tout le long de la mission. Donc,
mais c'est pas les meilleures places.
Ça doit pas être les meilleures places effectivement. Plutôt qu'être à l'avant, les mecs hurlent en train de tirer sur tout. Question à 3 attractions. À partir de quand une zone Star Wars a été pensée par Disney? La première fois que Disney s'est dit on aimerait faire une.
Ça, par contre, je suis sûr.
Une zone.
Je pense que c'est avant les années 2000. Ils ont dû déjà avoir un peu ce fantasme-là. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils ont commencé à mettre des attractions Star Wars...
Et donc, t'aurais dit vert.
Entre le Space Mountain et puis... bref. Allez, 90-95.
Même un peu plus tôt, mais t'étais proche des années 80. Années 80.
Mais oui, en même temps, c'est logique. C'était au moment où il y avait la trilogie, première trilogie se termine.
Et qu'après, fin des années 80, effectivement.
J'ai préféré dire les années 90 parce que c'était au moment du renouveau avec la prélogie qui allait sortir.
C'est durant la construction de Disneyland Paris, l'imaginaire, le nom donné au concept des parcs Disney, Tim Delaney avait envisagé une zone Star Wars dans le futur parc français qui a ouvert ses portes le 12 avril 92. Donc,
Finalement, ils ont fait un truc futuriste, mais plutôt Jules Verne, très européen.
Oui, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà, ils ont peut-être eu peur que
la popularité de Star Wars, elle n'était pas encore comme maintenant.
Oui, voilà, c'est ça, c'était peut-être encore un peu
trop... On était dans le creux de la vague entre les deux premières trilogies.
Oui, alors que là, ils ont gardé leur... Eh bien, merci TK d'avoir pu venir pour cette émission. Merci à Angok, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment. Et comme vous avez pu le constater... Nous sommes partisans, malgré que ça coûte cher, malgré que c'est mercantile, malgré tout ce que vous voulez. Effectivement, ça reste quand même un peu... Avoir autant d'argent, ça permet aussi de créer des grands événements et de créer des grands décors. Et ça fait plaisir à voir et de pouvoir le visiter. On espère... Alors oui, n'oublie pas... c'est vrai, j'oublie que tu dois tirer le sujet de la semaine dernière avant qu'on vous laisse mort devant.
De la semaine prochaine.
Bon, ça va, le sujet de la semaine prochaine, qui sera donc...
Alors, qu'est-ce qu'un cri dans Star Wars?
Bien, Je ne sais.
C'est rigolo parce que moi j'en ai une d'anecdote sur le cri dans Star Wars.
C'est vrai. Bon ben. Bah,
j'espère que vous parlerez de Willem.
Si ouais voilà, bah voilà. Tu nous le rediras. On parlera de d'effets sonores sûrement et de bruitage hein, tant qu'à faire pour élargir parce que si c'est que un cri. Mais en tout cas oui, qu'est-ce qu'un cri.
Il y a pas de S à cri. Hein. Il y a vraiment c'est.
Ah merde, c'est un cri. Bon ben bah, voilà, on essaiera d'analyser tout ça la semaine prochaine. Merci. Voilà, on a une semaine pour préparer ça. Ciao, à bientôt.